Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, je suis ravie d'ouvrir avec vous les carnets du monde et de retrouver les studios d'Europe 1. Service ininterrompu pendant le confinement, c'est ça la magie des ondes et de la radio. Quand on écoute le monde changer ces temps-ci, on entend notamment le personnel hospitalier, ces héros qu'on applaudit à 20h, nous dire que ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. C'est vrai en France, c'est vrai ailleurs. En Espagne, par exemple, 10 ans d'austérité ont considérablement affaibli l'hôpital. Aux États-Unis, c'est même radical, plus d'un million d'employés du secteur de la santé ont carrément perdu leur emploi depuis mars. L'insécurité des personnels soignants sur le continent américain fait même l'objet d'un rapport d'Amnesty International. Je vous présenterai aussi ce qu'on appelle en Allemagne les Covidios, un groupe très hétéroclite de citoyens qui trouvent que le gouvernement allemand fait beaucoup trop avec cette épidémie et que ça cache forcément quelque chose. On ira aussi au Rwanda, pas pour parler du virus. Non, là-bas, on se réjouit de l'arrestation de Félicien Kabuga, considéré comme le grand argentier du génocide en 1994. 26 ans de cavale, sous 28 identités, disent les enquêteurs. Et à la fin, il était en France. Un peu avant 13h30, c'est Margot Barallon qui viendra nous conseiller un film suédois, Happy Sweden. Quant à Joseph Chovanec, il aimerait bien savoir de quoi demain sera fait. Vous n'auriez pas un devin à lui conseiller? Les carnets du monde sont ouverts et on prend la direction de Barcelone.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Revalorisation des salaires, arrêt des fermetures systématiques de lits, réflexion sur les 35 heures, tout cela est sur la table. Un nouveau grand plan santé est attendu en France, la concertation commence demain avec les partenaires sociaux. Qu'en est-il chez nos voisins espagnols, parmi les plus touchés par l'épidémie de coronavirus avec plus de 28 000 morts? On va le voir, tout le système sanitaire est affaibli. Les politiques d'austérité ont accumulé les coupes budgétaires, suppression de postes et de lits d'hôpitaux et des pans entiers de la santé publique ont été privatisés. Aujourd'hui, face à l'épidémie de Covid-19, quel a été l'impact de cette austérité dans la gestion de la crise? Comment les hôpitaux ont-ils fait face à l'épidémie? Voici quelques premiers éléments de réponse. Reportage au cœur de l'hôpital de Bellvitge de Barcelone. Henri de la Guérie a rencontré le chef des urgences, Pierre Malcher. Vous allez l'entendre. Difficile d'évoquer la crise sanitaire en Espagne sans faire le lien avec l'austérité. Reportage.
Depuis la fin février, Pierre Malcher se bat sans relâche. Il ne s'est offert que 2 jours de congé. Après des semaines épuisantes, ce Belge expatrié à la tête des urgences de l'un des plus grands hôpitaux d'Espagne peut enfin souffler. Il reste prudent, mais il le reconnaît, le pire est passé. On ne voit plus de patients alités dans les couloirs. Les infirmières peuvent dédier un peu plus de temps aux malades. Et le service ne manque plus de matériel de protection. La crise qui a agité ces couloirs, il la compare à ce qu'il a vécu en mission lors du tremblement de terre en Haïti.
L'organisation et les décisions qu'on devait prendre et notre organisation interne étaient semblables à des situations de catastrophe. Que ce soit une guerre, que ce soit un ouragan, que ce soit un tremblement de terre. C'est vrai qu'il y a vraiment un besoin. On ne sait jamais ce qui va arriver le jour après. On ne sait jamais le nombre de patients qui vont arriver, dans quel état les patients vont arriver le jour après. Et ça impose des changements structurels, organisationnels et de ressources humaines. Tous les jours, une flexibilité du staff énorme.
Pour faire face au coronavirus, son hôpital est passé de 34 à 124 lits en réanimation. Une annexe provisoire a été construite. On a appelé en renfort des élèves infirmiers et de jeunes retraités des hôpitaux.
Ça a été des situations très difficiles à cause de la fatigue physique, mais je pense aussi de la fatigue psychologique. Pour un patient, avoir des difficultés pour respirer, je pense que c'est quelque chose de terrible, mais je pense qu'on n'est pas des robots. Et pour le médecin ou pour le personnel soignant, c'est aussi quelque chose de parfois très compliqué.
Dans l'ensemble, son hôpital a su faire face à la crise, mais ça n'a pas été comme ça partout. La vague était trop forte et le système de santé publique est beaucoup plus fragile depuis la vague d'austérité qui s'est abattue sur l'Espagne il y a 10 ans.
De toute façon, c'était très difficile. Hein. C'était très difficile d'être préparé, totalement préparé à une pandémie pareille. C'est évident que les recoupes budgétaires dans le monde sanitaire en Espagne a compliqué énormément le processus, que ce soit en termes de nombre d'hôpitaux, nombre de lits des soins intensifs, stock de matériel, réduction du personnel, parce que toute cette augmentation du nombre de lits et du nombre de patients et du nombre de malades dans la Catalogne ou dans l'Espagne a été traitée par le même nombre de soignants qu'habituellement. Et ça, évidemment, c'est une conséquence des recoupes budgétaires du passé.
Au début des années 2010, dans le cadre des coupes budgétaires, l'hôpital de Bellvitge a perdu 500 professionnels de santé et 150 lits. Après cette crise, la région devrait verser une prime exceptionnelle de 666 € net au personnel. Mais Pierre Malcher réclame plus de moyens sur la durée.
Quels que soient les partis au pouvoir, j'espère qu'il va y avoir une prise de conscience de leur part. Je sais que la situation économique va être compliquée à cause de cette pandémie, mais je pense qu'il est l'heure d'ajuster un petit peu les décisions et les moyens qu'on donne au système sanitaire.
Et signe que les temps ont peut-être changé, cette semaine, la Commission européenne a invité l'Espagne à investir davantage dans son système de santé publique. Barcelone, Henri Daguerri, Europe 1.
Voilà, on retrouve Henri de Laguérie à Barcelone, où le déconfinement est très lent, mais où l'épidémie est en net recul. Bonjour Henri.
Bonjour Sophie.
L'austérité est revenue sur le devant de la scène avec cette crise sanitaire, et puis aussi parce que ça fait exactement 10 ans que les premières coupes budgétaires ont eu lieu.
Oui, exactement, en mai 2010, et à ce moment-là, c'est la gauche qui gouverne en Espagne, mais 2 ans après le début de la crise des subprimes, les déficits publics se sont envolés, et Bruxelles impose au Premier ministre José Luis Zapatero cette première cure d'austérité. Une baisse de 5 à 15% des salaires dans l'éducation et la santé est imposée. Ensuite, ce sont les régions qui prennent le relais. Parce que rappelons-le, la santé est une compétence des communautés autonomes. Et c'est ici, en Catalogne, gouvernée depuis 2010 par les indépendantistes, que l'austérité est la plus sévère. Entre 2010 et 2018, la région perd 1000 lits d'hôpitaux. Le personnel sanitaire perd 15% de ses effectifs. Et une partie des services hospitaliers est externalisée. Lluís Rabell se souvient, il était député régional pour Podemos.
Le gouvernement catalan d'Artur Mas se présentait à l'époque comme un élève avancé de politique d'austérité au niveau européen, qui se vantait de coupes pour des raisons idéologiques. C'était un gouvernement d'inspiration néolibérale qui était convaincu que le privé est plus efficace que le public. Il fallait dégraisser l'État, comme on disait à l'époque.
À dégraisser l'État. Jusqu'à quand ont duré ces politiques d'austérité, Henri ?
Alors, il faut attendre le retour durable de la croissance. C'était à partir de 2015 pour voir l'étau se desserrer un peu. Aujourd'hui, l'Espagne dépense 5,9% de son PIB dans la santé. C'est encore presque 2 points de moins que dans le reste de l'Europe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette austérité qui s'est accélérée, d'ailleurs, avec le conservateur Mariano Rajoy. Il a notamment augmenté la durée du temps de travail dans la santé de 35 à 37h30. Eh bien, cette austérité avait suscité une immense colère dans toute l'Espagne. C'est là que sont nés les indignés qui ont occupé les grandes places du pays pendant un mois. Et en Catalogne, un autre phénomène, la crise indépendantiste, a finalement fait passer au second plan cette crise sociale.
Il est vrai qu'ici en Catalogne, à partir de 2012 surtout, il y a eu un phénomène politique, ce qu'on appelait le processus indépendantiste, qui a permis de tourner l'attention politique sur un conflit d'ordre territorial entre la Catalogne et l'Espagne et qui a laissé au second plan cette crise sociale, ce coupe budgétaire.
Alors aujourd'hui, Henri, est-ce que le personnel sanitaire se rappelle au bon vouloir des gouvernants ? Ils sont mobilisés ?
Oui, chaque soir, et ça prend de l'ampleur au moment des applaudissements pour le personnel soignant, des applaudissements un peu moins nourris, disons-le, depuis une semaine. Eh bien, des médecins, des infirmiers réclament les 5% de leur salaire qui leur ont été retirés en 2010, justement. Oui. On en est encore là. Juan Carlos Garcia est brancardier à l'hôpital clinique de Barcelone. C'est l'un des hôpitaux les plus prestigieux de la ville. Et donc, il manifeste chaque soir concrètement. Concrètement, ils sortent de l'hôpital avec des grands panneaux sur lesquels il y a écrit 5%. Et ces ciseaux qui font référence aux coupes budgétaires, on l'écoute.
S'ils sont si fiers de la santé publique, qu'ils nous respectent enfin, avec des actes et non des paroles. On veut notre salaire comme avant. Avec tout ce qu'ils ont coupé, on aurait tous pu s'acheter une voiture. On manque de personnel, on manque de matériel, on en a ras-le-bol. Si on avait mis plus d'argent et qu'ils n'avaient pas fait ces coupes budgétaires, on aurait peut-être pu sauver des vies.
Voilà, le personnel soignant se mobilise, mais pour le moment, mis à part des primes exceptionnelles prévues par les régions, rien d'autre n'est à l'agenda. Les seuls engagements que prennent les régions, seules compétences sur le sujet, je vous le rappelle, eh bien, c'est de ne pas appliquer à l'avenir de nouvelles coupes budgétaires.
Ouais, donc pas de plan santé comme celui espéré et attendu ici en France. Merci beaucoup Henri pour ce reportage et pour ces explications. À très vite.
À bientôt Sophie.
On marque une courte pause, puis on file aux Amériques Nord et Sud, où il est question aussi d'insécurité du personnel soignant, insécurité économique ou physique. À tout de suite.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde. Les carnets du monde.
13h14, coup de projecteur sur l'hôpital dans les carnets du monde. On s'intéresse cette fois au continent américain. On commence par les États-Unis, Sophie Larmoyer.
Ça apparaît comme un paradoxe. En pleine pandémie, on l'a vu ici en France, en Europe, le personnel soignant est extrêmement sollicité. Certains ont même changé de région pour venir prêter main forte dans les fameux clusters, là où les hôpitaux risquaient la saturation. Des médecins, infirmiers et infirmières travaillent non-stop pour faire face à la crise. Mais c'est une toute autre réalité qu'on va observer maintenant aux États-Unis. Bonjour Xavier Yvan.
Hello Sophie, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant basé à New York, une ville extrêmement éprouvée, hein, on le sait, par le Covid-19. Et pourtant, aux États-Unis, les hôpitaux licencient.
Oui, c'est vrai. 135 000 personnes virées dans les hôpitaux ces dernières semaines. Et en tout, 1,5 million d'employés du secteur de la santé qui ont perdu leur job aux États-Unis depuis le début de la pandémie.
C'est complètement contre-intuitif. Pourquoi ?
Oui. Bah pour une raison toute simple, les hôpitaux perdent de l'argent à cause du coronavirus. Alors certes, il y a tous les malades du Covid-19, mais c'est tout. Il y a presque plus aucun autre patient, et ça pour plusieurs raisons. D'abord, pour faire de la place pour la pandémie, bah, toutes les opérations chirurgicales non urgentes ont été annulées, tous les examens aussi. Et puis avec le confinement, bah, il y a moins d'accidents, donc moins de blessés du quotidien. Et puis aussi, il y a des gens qui vont plus faire soigner de peur d'attraper le coronavirus, aussi en pensant qu'il ne faut pas engorger les hôpitaux. Et ça, ça concerne notamment ceux qui souffrent de maladies chroniques.
Oui, mais pardon Xavier, mais tout cela est valable aussi en France, en Europe.
Ah oui, mais la différence, c'est qu'aux États-Unis, la santé, c'est un business. Les hôpitaux sont pour la plupart privés. Et comme toute entreprise qui perd de l'argent, bah, ils sont en danger. Il y a même un hôpital du Michigan qui a dû fermer temporairement, faute de revenus. L'association des hôpitaux américains estime la perte globale pour le secteur à 200 milliards de dollars, d'autant qu'ils soignent parfois des malades du Covid-19 à perte. Le coût d'un patient sous respirateur peut s'élever à 80 000 dollars. Le Congrès américain a bien voté une enveloppe d'aide pour les hôpitaux, mais ça sera certainement pas suffisant.
Ça veut dire, Xavier, que des personnels soignants se retrouvent au chômage en pleine pandémie?
Oui, ceux-là même que nous, on applaudit tous les soirs. Ouais. Alors ici, c'est à 19h. Les infirmiers et infirmières, ici, vous savez, sont assez faciles à virer du jour au lendemain parce qu'ils ne sont souvent pas salariés, mais employés à l'heure. Certains ont vu leurs heures réduites et d'autres soignants se retrouvent à faire un boulot totalement différent. Nettoyer les couloirs, changer les draps, sortir les poubelles, répondre aux standards, tout ça parce que les personnes qui faisaient ce travail-là avant, eh bien, ont elles-mêmes été licenciées.
Est-ce qu'on peut penser que c'est conjoncturel le temps du coronavirus ou bien ça aura des effets à long terme ?
Alors, ça aura des effets à long terme, on le sait déjà, parce qu'il n'y a pas que le personnel médical qui fait face à ce chômage grandissant ici. La crise économique touche tous les Américains. Vous savez, ils sont des dizaines de millions à avoir perdu leur emploi ces dernières semaines. Ouais. Et avec leur job, ils perdent souvent leur assurance santé, qui est liée à l'employeur. Vous savez, ici, il n'y a pas de couverture santé universelle comme en France ou ailleurs dans le monde occidental. Donc, ces dizaines de millions d'Américains n'iront pas se faire soigner faute de moyens. Ou alors, quand ils iront à l'hôpital, c'est le système de protection sociale pour les pauvres, Medicare, qui réglera la facture. Or, ce programme public paye beaucoup moins qu'un assureur privé pour le même acte médical, donc bah, ça rapportera moins à l'hôpital ou au médecin. Et déjà, des voix s'élèvent pour demander une refonte complète du système de santé américain à l'occasion de cette crise, notamment chez les démocrates. Ouais. Et la santé, ce sera donc un des thèmes forts de la campagne présidentielle cet automne.
C'est donc un dossier à suivre un petit peu partout dans le monde. Hein. Finalement, le coronavirus aura servi de révélateur. Merci beaucoup Xavier, à bientôt.
À bientôt Sophie.
Et bonjour Jean-François Dubost.
Bonjour.
Vous travaillez pour Amnesty International où vous êtes responsable protection des populations, vaste mission. Et cette semaine, vous avez publié un rapport qui fait la synthèse d'une série d'enquêtes menées par votre personnel à travers un certain nombre de pays du continent américain, une dizaine je crois du nord au sud. Alors j'en cite quelques-uns, États-Unis justement, Mexique, Nicaragua, Guatemala, Colombie entre autres. Et le constat unanime, c'est que les États ne protègent pas les droits du personnel soignant. Et d'abord, c'est un manque de moyens, de matériel.
Oui, alors c'est essentiellement effectivement un manque de moyens qui traduit forcément un manque d'anticipation dans le cas d'une crise et également aussi un manque de volonté politique. Mais s'ajoute à ça aussi eh bien, des partis pris d'un certain nombre de gouvernements de ne pas nécessairement vouloir voir la réalité en face alors, et vraiment passer le cap.
On va y revenir, mais alors d'abord sur le manque de moyens, de matériel. Matériel d'équipement de protection, finalement, cette pénurie, on l'a constatée à peu près partout, hein, et en France notamment. C'est pire là-bas ou c'est pas mieux ?
Alors, c'est souvent très complexe de comparer les États entre eux. En tout cas, ce que l'on a voulu faire sur le continent américain, c'est de mettre en évidence, à l'heure où il y a déjà 2 millions de personnes touchées par le Covid, et on n'en est probablement pas au pic de l'épidémie sur place, c'est de pointer du doigt finalement toutes les lacunes dans les politiques des gouvernements, tous les manquements au droit international. Parce que ce qu'il était important pour nous de montrer, à travers une série de témoignages et d'analyses de différents pays sur l'ensemble du continent américain, eh bien, c'était que le droit international n'était pas respecté. Tout ça n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question d'obligation pour les États de protéger les personnes qui sont en première ligne dans le cas de crise sanitaire comme celle que nous vivons.
Vous parlez de témoignages, il y a notamment, vous faites remonter notamment pas mal de témoignages de personnel d'entretien qui travaillent pour des sociétés privées et qui sont complètement laissés pour compte, qui n'ont pas du tout de matériel parfois.
Absolument, ce personnel d'entretien, c'est vraiment ceux qui sont en toute première ligne et qui sont, comme vous le dites, des oubliés, les personnes qui nettoient, qui débarrassent les salles, qui sont en fait au contact et dans des zones où le virus peut circuler, au contact de patients touchés. Bah, absolument, j'y venais, un homme mexicain, Alexandre, 70 ans, qui a simplement lui demandé, parce qu'il n'avait pas du tout de protection, d'équipement personnel de protection, de masque, de changer de lieu, d'affectation. Alors, ça a été autorisé, mais il a perdu 16% de son salaire. Voilà. Et donc, c'est pas un cas isolé. Simplement, ça a été très difficile aussi pour nous de récupérer énormément de témoignages, puisque les personnes avaient peur d'être licenciées souvent.
Certains nettoient à main nue les unités Covid.
Oui, c'est rapporté par des médecins d'un hôpital public en Bolivie, où le personnel médical, plutôt docteur, infirmier, constatait que ces personnes employées généralement, comme vous le disiez, par des compagnies privées, eh bien, n'étaient pas du tout équipées, donc complètement exposées. Mais ce qui nous effraie aussi, c'est que ce personnel médical n'osait pas intervenir parce que la question était sensible, soit du point de vue des autorités qui dirigeaient l'hôpital, soit du point de vue même du gouvernement, puisque là encore, il y a une très forte pression pour ne pas montrer les lacunes, les défaillances ou les manques.
Ça met en valeur l'incurie de l'État.
C'est un peu ça, oui. On a pu récolter un certain nombre de situations, de lanceurs, ce qu'on appelle lanceurs d'alerte ou des défenseurs des droits humains, au Nicaragua par exemple, ou même aux USA, où les personnes ont tenté de prendre la parole pour dénoncer l'absence d'équipement ou le besoin d'en avoir plus, et elles se sont retrouvées avec des mesures disciplinaires, des harcèlements, congédiées, même une jeune fille qui a posté une vidéo Facebook aux États-Unis dans l'Illinois, qui a été totalement licenciée de son travail. Et au Nicaragua, des personnes également qui sont clairement menacées et même physiquement agressées lorsqu'elles portent un masque. Ça, c'était au cours du mois d'avril au Nicaragua. C'est complètement absurde et fou.
Vous parlez même de menaces de mort, parfois d'intimidation.
Oui, pour certains régimes, on pense notamment au Nicaragua, mais également Honduras, Paraguay, Mexique, on a des personnes qui se sont fait menacer et qui du coup n'ont même pas osé témoigner ou accepter que leur, même sous couvert d'anonymat, leur témoignage soit livré. Donc ce qui montre à quel point il y a un besoin non seulement de mettre en place des normes pour protéger les conditions de travail, les travailleurs qui sont sur ces lieux, mais également qu'il y ait une action forte de l'État pour rappeler que ces personnes ont un rôle essentiel pour protéger la population dans son ensemble. Et puis surtout que la justice soit faite s'il y a des intimidations, des menaces de mort ou du harcèlement, y compris au sein de compagnies privées.
Et vous le dites vous-même, les États à qui vous appelez à plus de responsabilités sont souvent les premiers responsables de cette incurie et de cette situation. Donc qu'est-ce que vous préconisez? Vous pensez qu'une pression internationale peut faire bouger les lignes?
Alors, il y a effectivement un besoin de mettre en évidence et en lumière, et c'est notre rôle à Amnesty International. Il faut faire rendre apparentes ces témoignages, même s'ils sont peu nombreux. On les a croisés avec beaucoup d'autres éléments d'analyse. Il y a des organisations de contrôle du respect des droits de l'homme dans ces pays qui sont très actives aujourd'hui dans la période. Et puis, il faut quand même rappeler avant tout que c'est la responsabilité, le rôle, l'obligation des États de mettre en place un cadre légal, de s'assurer, donc en envoyant des inspecteurs du travail sur les lieux, y compris dans les compagnies privées.
Quand il y en a.
Voilà, quand il y en a, mais il devrait y en avoir, ça aussi, c'est pas juste une possibilité ou une option, c'est vraiment une obligation de droit international, dédier des fonds, ou en tout cas, dans le cadre de la solidarité internationale, ne pas refuser, comme l'a fait pendant longtemps le Venezuela, des fonds internationaux. Donc il y a vraiment besoin aussi d'une solidarité à l'échelle du continent américain entre les pays les plus riches, on pense notamment aux États-Unis, et les pays les moins riches ou les moins outillés aujourd'hui pour faire face à la crise.
Merci beaucoup, Jean-François Dubos, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes responsable protection des populations à Amnesty International. Merci, à une prochaine fois. On parle cinéma dans quelques instants avec Margot Barallon, qui a repéré un film suédois qu'on a peut-être loupé mais qu'on peut encore voir jusqu'à mi-juin.
Les carnets du monde.
Jusqu'à 14h avec Sophie Larmoyer. Voici à présent la page culturelle des carnets. Une autre manière de raconter le monde à travers les romans. Et aujourd'hui, à travers un film, Sophie.
Un film dans le monde, c'est la très cinéphile Margot Barallon qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Margot.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Alors c'est pas parce que les cinémas sont fermés qu'on ne peut plus voir de films. Vous avez trouvé une petite pépite suédoise à regarder gratuitement sur le site de la chaîne Arte, Arte TV.
Oui, c'est un film du réalisateur Ruben Östlund, dont le nom vous dit peut-être quelque chose parce qu'en 2017, il avait remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes, c'était avec le film The Square. Mm-hmm. Mais là, on est 9 ans auparavant, en 2008. Il n'en était encore qu'à son deuxième long métrage et c'est celui-ci qu'Arte vous propose de voir. Ça s'appelle Happy Sweden.
Ça raconte quoi alors ?
Alors, il n'y a pas une, mais 5 histoires différentes qui s'entremêlent dans le film. Alors, c'est pas une succession de sketchs, hein. Attention. On va passer plusieurs fois de l'une à l'autre. C'est un procédé assez original. On va suivre une famille bourgeoise pour le réveillon du Nouvel An, deux adolescentes un peu vulgaires qui sortent pour une soirée arrosée, ou encore l'histoire d'une institutrice qui surprend l'un de ses collègues en train de brutaliser un enfant. Alors, à première vue, hein, toutes ces scénettes n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais mises bout à bout, elles vont permettre de dresser un portrait de la Suède contemporaine.
Alors, est-ce qu'elle est vraiment happy, joyeuse, la Suède de Ruben Östlund ?
Eh bien, pas vraiment. Hein. C'est justement ça qui est intéressant, c'est de voir que le réalisateur bat en brèche à peu près toutes les idées reçues sur son pays et les pays scandinaves en règle générale d'ailleurs. Vous savez, on les présente souvent comme des modèles. Ouais. Par exemple, en matière d'égalité homme-femme, eh bien, dans l'une des histoires, vous avez une demi-douzaine de copains qui se réunissent pour un week-end à la campagne et on voit très vite que c'est un festival de beaufries, comme quoi être suédois ne vaccine pas contre la masculinité toxique. Et puis, Ruben Östlund, il montre aussi un pays assez psychorigide, enfermé dans des carcans. Il y a une histoire dantesque qui se passe dans un car. Lors d'un arrêt, le chauffeur s'aperçoit que quelqu'un a cassé la tringle à rideau des toilettes de son bus. Bon, rien de grave a priori, sauf que ça le fait complètement disjoncter.
Je déplore ce comportement. Quand une chose pareille arrive, je pense que le coupable doit se dénoncer. Malheureusement, je sens que je n'ai pas envie de redémarrer avant de savoir qui a fait ça. Là, on parle d'une tringle à rideau, mais la prochaine fois, ça pourrait être plus grave. Cela pourrait porter atteinte à la sécurité. On restera ici jusqu'à ce que j'ai un aveu.
Alors, je vous raconte pas à la fin, hein, évidemment, mais sachez que ces passagers ne sont pas au bout de leur peine. En fait, la marque de Ruben Östlund, c'est vraiment de prendre des situations très banales et de les faire vriller en quelques secondes. Alors, parfois, c'est drôle, mais souvent, c'est très gênant. Et c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans tous ses films. Il a souvent été décrit, et je trouve ça assez juste, comme le cinéaste du malaise.
Mais finalement, les critiques portées par ces films ne s'appliquent pas uniquement à la société suédoise. J'ai l'impression que le propos est assez universel.
Oui, c'est vrai. Hein. L'autre obsession du réalisateur, c'est le comportement des individus face au groupe. Et ça, ça s'applique vraiment à tout le monde. Tous ces personnages sont tellement obsédés par les apparences, le regard des autres, que ça conduit inévitablement à la catastrophe. Alors, pour ça, l'histoire du réveillon, c'est un excellent exemple très littéral. En Suède, la tradition pour le Nouvel An, c'est de lancer des petits feux d'artifice dans son jardin. Ouais. Et là, vous avez le patriarche qui n'a pas bu que de l'eau au dîner, qui s'approche trop près, qui se prend une fusée dans l'œil. Alors, évidemment, là, le bon sens vous dicte de filer directement aux urgences. Sauf que non, il refuse, pas question d'abandonner ses invités, son repas, il faut faire bonne figure jusqu'au bout. Ça résume bien le regard acéré de Ruben Östlund.
Et sur la forme, à quoi ressemble le film ?
Eh bien là aussi, hein, le réalisateur suédois, il fait des choix radicaux. Happy Sweden, ça ressemble presque à un documentaire. Tous les acteurs sont des amateurs, et puis vous avez très peu de mouvements de caméra, très peu d'artifices. C'est même parfois un peu trop brut hein, comme image. Alors c'est voulu, évidemment. Ruben Östlund adore aussi jouer avec le hors-champ. Dans ses films, vous avez souvent plus de choses qui se passent à l'extérieur de son cadre qu'à l'intérieur. Et ça, c'est aussi la marque d'une certaine exigence, finalement. C'est un réalisateur qui attend du spectateur qu'il soit attentif, qu'il s'investisse dans le film. Alors, le résultat est souvent clivant, mais vraiment intéressant.
On essaiera d'être à la hauteur. Alors, Happy Sweden, c'était mardi dernier sur Arte, mais n'ayez pas de regrets, c'était à 00h15, alors qu'il est disponible en replay gratuitement sur Arte TV jusqu'au 16 juin. Merveilleux. Merci beaucoup, Margot.
Merci à vous.
Et on vous retrouve tous les mercredis hein, entre 10h et 11h dans Culture Média avec Philippe Vandel. Vous nous faites découvrir les meilleures séries télé. À très bientôt.
Europe 1. 13h-14h, les carnets du monde.
Et chaque dimanche, on écoute Le Monde Changer avec Sophie Larmoyer. Le déconfinement se poursuit, notamment en Allemagne, et il s'accompagne d'un nouveau phénomène, des manifestations contre les mesures prises par le gouvernement.
Tous les samedis, dans la plupart des villes, des citoyens se réunissent pour dénoncer toute forme de lutte contre l'épidémie. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondante basée à Berlin. Alors ce ne sont pas vraiment des manifestations, mais plus des rassemblements dans le respect des règles de distance et des gestes barrières. Plusieurs milliers de personnes tout de même, hein, à Munich ou Stuttgart par exemple, et ce sont parfois des gens avec des profils très différents. Des citoyens mécontents d'avoir été privés de liberté de circulation par exemple, mais aussi beaucoup de conspirationnistes ou de radicaux d'extrême droite. En Allemagne, on les appelle les Covidiots.
Oui, Covidioten en allemand. Et c'est le paradoxe de la prévention. L'Allemagne a bien résisté à l'avancée du virus, avec moins de cas qu'ailleurs, proportionnellement à sa population, et surtout beaucoup moins de morts ici. Mais au lieu de se féliciter de cette bonne gestion de la crise, certains ici la remettent en question. Et si Merkel avait paniqué face à une menace finalement pas si terrible que ça, en demandant à la population de rester chez elle, aux entrepreneurs de fermer les commerces, les restaurants, etc., etc.
En gros, est-ce que la réponse était proportionnée ? Jusque-là, ce sont des arguments, des questionnements qui peuvent s'entendre.
Oui, mais certains ne s'arrêtent pas là. Dans ces manifestations, beaucoup pensent que Angela Merkel a volontairement exagéré la situation pour priver les citoyens de leurs droits fondamentaux et instaurer une dictature. Alors écoutez, Attila Hildmann, c'est l'un des leaders de ce mouvement. Jusqu'à présent, ce chef cuisinier était surtout connu pour ses livres de cuisine et sa ligne de produits vegan. Mais depuis un mois et demi, il est devenu une sorte de gourou sur les réseaux sociaux. Voici un extrait de l'une de ses vidéos.
Cela fait des semaines que tout est stoppé à cause d'un virus dont on survit à 98%. Les hôpitaux sont vides, les lits de soins intensifs sont vides. On entretient notre peur, notre panique. Regardez, maintenant le symbole de cette peur, ce sont tous ces masques qu'on doit se mettre sur la gueule. C'est criminel et c'est un acte de haute trahison à l'égard du peuple allemand.
Alors, accuser Merkel de haute trahison, c'est le discours de l'extrême droite ici depuis 2015, maintenant, depuis que l'Allemagne n'a pas fermé sa porte aux migrants. Et d'ailleurs, les participants de ces manifestations anti-confinement aiment eux aussi se présenter comme des résistants face à une élite berlinoise qui serait déconnectée de la réalité des choses, voire manipulée.
C'est là que rentrent en jeu les théories du complot.
C'est ça, les gouvernements seraient actuellement sous le contrôle de forces supérieures, des extraterrestres, des Illuminati. L'une des théories les plus en vogue, et pas seulement en Allemagne d'ailleurs, concerne Bill Gates, qui serait à la tête d'un lobby pro-vaccin. Alors c'est vrai que le patron de Microsoft a investi beaucoup dans la recherche médicale, que sa fondation fait des dons à des instituts de recherche, et c'est même l'un des premiers bailleurs de l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS. Et ici, cette théorie est portée par un ancien journaliste de la radio-télé publique qui a créé sa propre chaîne sur Internet. Il y apparaît grimé en Joker, ce personnage de l'univers de Batman, et il nous livre des monologues complètement erratiques.
On est tous en train de chier de peur. Mais nous avons tous peur de la suite. Mais la peur est dans nos têtes. Elle est orchestrée de l'extérieur. Il faut bien se dire que Bill Gates et sa fondation, ce ne sont que trois personnes. Et quand il a eu besoin d'argent, ils se sont dit, bon, comment on fait? On a besoin d'une menace. On a besoin d'une maladie. On a besoin d'une pandémie. Déjà en 2009, la grippe H1N1, c'était une invention des gens qui possèdent l'OMS.
Oh, ce rire à la fin. Hélène, c'est du second degré, rassurez-nous.
Non, pas du tout. Ce type, Ken Jebsen, pense vraiment que Bill Gates est pire que Hitler. Il l'a dit dans une autre de ses vidéos. Après, il y a des théories plus farfelues encore. Par exemple, j'ai lu que le confinement aurait été instauré au même moment partout dans le monde pour que les gouvernements puissent en secret changer les batteries des pigeons de nos villes.
Quoi ?
Parce que ces pigeons, en réalité, ce seraient des drones qui nous surveillent.
Et ça, ce serait franchement très drôle si c'était un canular, ce qui n'est pas le cas. Ce qui est inquiétant, Hélène, c'est que 16% des Allemands soutiennent ces manifestations anti-confinement.
Alors même que l'Allemagne, il faut quand même le rappeler, n'a pas eu de confinement. On a toujours eu le droit de sortir ici à volonté, mais il y a eu, et il y en a encore, il y a encore des restrictions. Pas de visite dans les maisons de retraite, par exemple. Les jardins d'enfants et les crèches restent fermés et ça pose problème au quotidien pour de nombreuses personnes comme Alphonse, 84 ans. Ce vieux monsieur a fait le buzz cette semaine après sa participation à la manifestation de Gera dans le centre de l'Allemagne le week-end dernier. Écoutez bien, c'est une scène qui a été filmée par la télé.
Ma femme a été placée dans une maison de retraite depuis mi-décembre. Elle me manque et je lui manque aussi. Je ne l'ai pas vue depuis 8 semaines. C'est une torture de l'âme, je vous assure. J'y suis allé tous les jours, mais je n'ai pas le droit de rentrer.
Tout ça à cause de Merkel et son régime. Le taux de mortalité pour la grippe est plus haut, mais tout le monde s'en fout. Mais là maintenant, on se retrouve confinés. Ne vous laissez pas embobiner.
Je ne me laisse pas embobiner.
Forcément, si tu regardes ARD et ZDF, tu as déjà perdu le contrôle sur ta vie. Il est temps de le comprendre.
Absolument pas. Il faut garder la raison, hein.
Alors, on l'entend, Alphonse, il arrive à prendre ses distances, mais son malaise, sa douleur, il pleure hein, face à la caméra, est récupéré par les autres manifestants. En l'occurrence, là, c'est un groupe de néo-nazis. Alors, dans le sondage que vous évoquiez, on voit aussi clairement que les deux tiers des Allemands qui soutiennent ces manifestations se disent électeurs ou sympathisants du parti d'extrême droite AfD.
Est-ce que les leaders de l'AfD participent à ces rassemblements ?
Alors, pour l'instant, pas de récupération politique visible. Ils se tiennent à distance, notamment parce que ce mouvement est quand même assez hétéroclite. Il y a aussi des participants qui se disent ouvertement de gauche. Il y a des anarchistes qui rejettent tout arbitraire de l'État, des militants de la médecine alternative, des anti-vaccins, des représentants de sectes ésotériques. À Stuttgart, où le mouvement est le plus fort, la mobilisation s'organise derrière un ORL, spécialiste des vertiges, qui accuse, lui, les ondes électromagnétiques, la 5G par exemple, d'être à l'origine du virus. Et du coup, pour se protéger, les manifestants portent souvent des petits chapeaux en papier d'aluminium, un peu comme des bonnets de schtroumpf, si vous voulez.
C'est ce qui a sans doute donné leur surnom, hein, des Covidios.
Oui, c'est ça. Et en fait, bon, certains ont compris qu'ils étaient un peu ridicules, alors ils se sont rabattus sur un autre signe de ralliement un peu plus discret. Ils ont maintenant une boulette de papier d'alu façon pompon, épinglée sur leurs habits ou bien portée en pendentif. C'est le signe des gens qui ont ouvert les yeux, contrairement à tous ceux qui se laisseraient berner par le gouvernement et les médecins. C'est ce qu'explique Attila Hildmann, le cuisinier vegan.
Vos cerveaux ont été lessivés. Vous êtes manipulés. Vous avez été programmé pour clouer au pilori tous ceux qui remettent en question cette parole. Et si vous regardez dans les livres d'histoire, ce sont les signes du fascisme. Il n'y a pas qu'une seule vérité, il y a beaucoup de vérités et beaucoup d'opinions. C'est le principe de la démocratie et c'est cela que nous défendons là.
Voilà un leader conspirationniste qui se pose en défenseur de la démocratie. Et on pourrait même dire un combattant, Hélène.
Absolument. Cette dernière vidéo le montre en train de s'entraîner au tir ou au combat de rue. Il se dit prêt à mourir pour faire tomber le gouvernement Merkel, car, je cite, « ce qui se passe en ce moment est pire que le nazisme ». Et d'ailleurs, il poursuit son analogie. Plusieurs chaînes de supermarchés ont retiré cette semaine ces produits de leurs rayons. Alors pour lui, c'est le signe qu'il est discriminé, comme les Juifs pendant le Troisième Reich. Il pense aussi que ceux qui refuseront le vaccin anti-Covid seront stigmatisés, comme les lois de Nuremberg l'ont fait avec les Juifs. Et il n'est pas le seul à dérouler cette théorie abjecte. Dans les rassemblements, certains viennent avec des étoiles jaunes. On peut aussi acheter des t-shirts avec l'étoile juive et le mot « non vacciné » écrit en lettres gothiques comme un slogan. Une plainte vient d'ailleurs d'être déposée contre le fabricant de ce t-shirt et le parquet général allemand va ouvrir une enquête.
Édifiant. Ce sont donc les Covidios. Des gens d'horizons très différents, hein, on l'a entendu, mais dont certains sont vraiment, vraiment gratinés. Merci beaucoup Hélène de nous les avoir présentés et à très vite dans les carnets.
À bientôt Sophie.
On va prendre la direction du Rwanda une semaine après l'arrestation en région parisienne de celui qui était considéré comme le financier du génocide en 1994.
Chaque dimanche de 13h à 14h, vous écoutez Sophie Lermoyer. Changement radical de sujet, de décor et de continent. Nous filons dans l'Afrique des Grands Lacs. 26 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, l'un de ses responsables présumés a été arrêté en France le week-end dernier. Et c'est un dossier douloureux qui est rouvert avec ses zones d'ombre.
Il était le plus recherché des responsables du génocide rwandais encore en liberté. Félicien Kabuga dort à la prison de la santé depuis son arrestation il y a 8 jours en région parisienne. Il a été présenté mercredi dernier devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et doit y comparaître à nouveau ce mercredi. 26 ans de cavale pour cet octogénaire considéré comme le grand argentier des massacres qui ont fait 800 000 morts entre avril et juillet 1994 des Rwandais Tutsis. Très proche du président Hutu à l'époque, Kabuga avait participé activement à l'élaboration de ce projet génocidaire en finançant des milices, en les armant, en créant aussi l'outil de propagande qui appela au meurtre de tous les Tutsis, la tristement célèbre radio-télévision des Mille Collines. 26 ans après, son arrestation provoque un grand soulagement au Rwanda et ravive les blessures. Reportage à Kigali, la capitale de Margot Chevance.
Dans le quartier de Gikindou, 26 ans après, le souvenir de Félicien Kabouga plane toujours. C'est ici que se trouvait à l'époque l'un des entrepôts du richissime homme d'affaires proche du pouvoir, là où ont été stockées des centaines de tonnes de machettes importées de Chine et destinées aux milices Inéramoué, le bras armé du génocide des Tutsis. Bernard Ayabaoutou habitait à quelques ruelles de ce lieu macabre. Sa maison a été prise d'assaut par les tueurs dès les premiers jours des massacres en avril 1994. Miraculeusement, avec un de ses fils, il a survécu.
Je n'ai rien oublié. À chaque fois que je passe devant le bâtiment de l'entrepôt, je me rappelle de Félicien Kabouga, je me souviens de comment j'ai été découpé à la machette, comment j'ai été laissé pour mort. Quand on a appris dans le quartier l'arrestation en France de Félicien Kabouga, c'était un soulagement. Mais pas à 100%. Ça le sera quand les gens iront témoigner contre lui devant la justice. J'aimerais personnellement y aller et raconter devant lui ce qu'il m'est arrivé.
À 68 ans, Bernard vit toujours dans ce quartier. Il n'a pas eu les moyens de déménager ailleurs. Après le génocide contre les Tutsis, il n'a jamais retrouvé son travail d'électricien. Son corps est encore marqué par les sévices des milices, les milices de Kabouga, dit-il. Des cicatrices dans le cou et à la hanche, une béquille pour marcher. L'une de ses voisines, Apollonia Chumuchara, lui rend régulièrement visite. Un élégant tailleur bleu, des manières apprêtées. Pourtant, cette femme de 55 ans a tout perdu en 1994. Son commerce en contrebas de la colline de Gikondo a été saccagé par les miliciens ivres, sa maison détruite. 30 personnes de sa famille sont mortes. Quand elle replonge dans ses souvenirs, des petits spasmes crispent son visage.
Ce groupe de miliciens est descendu vers chez nous pour chercher de quoi boire.
Ils nous ont menacés.
Ce jour-là, j'ai commencé à m'enfuir. Je suis allée en haut du quartier de Gikondo.
3 jours après, j'ai traversé.
Et puis j'ai traversé le fleuve du Nyabarongo pour aller vers le sud du pays. Mais partout où on allait, on rencontrait des milices Inerham. Et nous savions que toutes ces milices ont été équipées par M. Kabouga.
Apollonia enseigne désormais la couture à l'église voisine des anciens entrepôts de machettes de Félicien Kabouga. Elle passe quasiment tous les jours devant ce bâtiment imposant, transformé en un centre de réhabilitation pour les délinquants.
Moi, j'entends toujours le bruit des...
J'entends toujours le bruit de leurs chants.
Des chants, toi qui étais là.
Les chants des milices Inerham qui étaient là. Quand ils finissaient de boire, ils chantaient, ils dansaient.
C'était aussi le logement
de ceux qui ont été entraînés par Félicien Kabouga. Il était leur fournisseur. Il leur donnait à manger, à boire, il les payait et les miliciens faisaient ce que Kabouga leur disait.
À l'annonce de l'arrestation de Félicien Kabouga en banlieue parisienne il y a 8 jours, Apollonia s'est presque évanouie. Un quart de siècle plus tard, la justice va enfin être rendue. Secrètement, elle voudrait que toutes les propriétés au Rwanda du richissime homme d'affaires, des propriétés saisies dans les années 2000, soient vendues au profit des rescapés. Pour retrouver un semblant de dignité, soupire-t-elle. Kigali, Margot Chevance, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et nous sommes en ligne avec Thierry Cruvelier. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef du site justiceinfo.net et auteur d'un livre qui fait référence sur la manière dont la justice a répondu au génocide rwandais. Il s'appelle « Le tribunal des vaincus », publié par Calman Levy. Vous avez suivi les procès, les enquêtes du tribunal pénal international pour le Rwanda qui était basé à Arusha en Tanzanie. Félicien Kabouga, c'était un fugitif très recherché.
Ah, c'était le plus recherché. En tout cas, sur toutes les dernières années, au lendemain du génocide, à cause de son rôle assez central que vous avez décrit au début de cette émission, derrière certains des organismes ou des institutions qui ont joué un rôle clé dans le génocide, comme les milices, comme la radio des Mille Collines, comme un fonds de défense nationale pendant les massacres, il figure parmi les cibles évidentes du tribunal international qui est créé après le génocide. Mais la plupart de ces suspects de premier plan vont être arrêtés dans les années qui suivent relativement facilement. Sauf donc une poignée d'entre eux, et le plus célèbre de ceux sur lesquels on n'arrive pas à mettre la main, c'est Félicien Kabouga. Ouais. Donc il y a plusieurs moments où les enquêteurs du tribunal ou des polices nationales sont très près de la voir, mais grâce à son argent sans doute,
il
grâce
s'est échappé.
À ses connexions politiques, il arrive à s'échapper.
Il paraît qu'il a utilisé 28 identités pendant ses 26 ans de cavale. Alors c'est énorme.
C'est ce qu'on vient donc d'apprendre par la police française qui l'a arrêté le week-end dernier. C'est énorme, Et ça montre un peu aussi l'extrême ingéniosité et les moyens qu'il a pu aussi mettre en œuvre pour rester en introuvable pendant si longtemps. Là aussi, là c'est sûr que Kabuga a pu profiter quand même de certains moyens, mais sa cavale reste spectaculaire et impressionnante. Et quand on apprend aujourd'hui qu'il a eu effectivement 28 identités différentes, on mesure la sophistication de l'entreprise.
Au-delà des moyens financiers, est-ce qu'on peut imaginer une si longue cavale sans des protections au plus haut niveau ?
On va peut-être en savoir davantage maintenant sur ces 23 ans, parce qu'il y a énormément de mystères, il y a beaucoup de spéculations, on sait quand même finalement pas grand-chose. Mais on sait avec certitude qu'au tout début, donc vraiment, disons dans les années 95 jusqu'à sans doute 2000, oui, il y a toute une période où on sait qu'il est au Kenya, et là, il bénéficie de protections politiques tout à fait claires et identifiées.
Au plus haut niveau,
le
président.
Voilà. Donc pour cette période-là,
c'est
un fugitif qui bénéficie de protections politiques très importantes. Pour l'autre partie de sa cavale, qui est beaucoup plus mystérieuse, où là il va quitter à un moment donné le Kenya, parce qu'on sait qu'on l'a, 10 ans plus tard, en 2007, on sait qu'il est en Allemagne, et puis apparemment aujourd'hui on apprend qu'il a quand même été surtout en Europe sur toutes les dernières années, Allemagne, Belgique, France. Là, c'est moins clair.
Luxembourg, Suisse, on dit aussi.
Il y a des suspicions, évidemment, surtout sur la France, puisque à cause des relations entre la France et l'ancien régime au Rwanda, certains soupçonnent peut-être qu'il a eu des soutiens politiques. Il n'y a aucune preuve à ce jour de ça. A priori, les conditions de son arrestation ne semblent pas tellement soutenir une telle thèse. Et donc là, on passe à un autre type de fugue, qui est plus classique, je dirais, qui est plus le criminel en fuite, où on est dans la clandestinité et on utilise surtout des techniques de base, de faux papiers et d'argent et de cash.
Ces avocats français rappelaient mercredi que Félicien Kabuga est présumé innocent. Pour autant, est-ce qu'on a des doutes sur son rôle dans la préparation, le financement du génocide, dont on sait qu'il a été planifié pendant des années avant 1994, sans rappeler un peu tout son rôle comme vous le faisiez tout à l'heure, est-ce qu'on a des doutes ou est-ce qu'on a plutôt des preuves ?
Je crois que c'est toujours la différence là entre l'histoire et le judiciaire. Je pense que les historiens tiennent Kabuga comme un personnage central de cette période de l'histoire politique du Rwanda à cause de sa présence claire, établie, derrière la création des jeunesses du parti présidentiel qui vont devenir les milices Interahamwe, leur financement, la radio, etc. Donc il est bien là, il est bien actif, et là on a des faits qui sont difficiles à contester. Ensuite, c'est toute la question de la responsabilité par rapport au massacre même et par rapport au génocide lui-même. Et là, je pense que c'est le procès qui va être plus important pour l'établir que le discours, disons, médiatique ou des historiens. Mais là, je crois que c'est vraiment l'apport du procès. L'apport du procès, c'est de pouvoir établir qu'il a effectivement été directement, clairement, pénalement lié au crime.
Il est question que Félicien Kabuga soit transféré provisoirement à La Haye pour des raisons sanitaires liées à l'épidémie actuelle. Mais à l'origine, le tribunal pénal international du Rwanda était à Arusha en Tanzanie. Est-ce qu'il est possible que ce tribunal rouvre ? Il a été fermé il y a plusieurs années pour juger Kabuga aujourd'hui.
Oui, c'est possible. Il y a un bâtiment qui existe à Arusha, qui est logistiquement capable de tenir un procès. Donc c'est tout à fait possible et c'est en fait ce qui est prévu. En revanche, ça a des conséquences budgétaires tout à fait considérables.
Est-ce que son procès, selon vous, pourrait lever des zones d'ombre, peut-être révéler des complicités embarrassantes, et je pense notamment à des révélations qui pourraient embarrasser l'État français ?
Alors là, tout dépendra de la stratégie de défense de Kabuga. Est-ce qu'il veut parler ou est-ce qu'il ne veut pas parler ? A priori, on n'a pas d'indication selon laquelle il voudrait parler. Et donc, on aura plutôt un procès qui sera une contestation systématique des accusations portées contre lui. Après, tout procès peut apporter des surprises, dont celle des relations avec la France, où il doit en savoir peut-être une partie.
Oui, il est ressorti de la salle de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, le poing levé, ce qui donne un peu une idée de son état d'esprit. Quelques mots sur cette justice internationale après le génocide. Au-delà de la justice internationale, il y a eu plus de 12 000 lieux de justice qui ont été créés au Rwanda même pour juger les assaillants. Est-ce que vous diriez que cet épisode terrible de l'histoire du Rwanda fait figure d'exemple ?
C'est en tout cas le seul cas historique, je pense, que nous avons d'une justice de masse après un crime de masse. C'est-à-dire que le Rwanda a fait mentir l'idée qu'après un crime de masse, on ne peut pas juger tout le monde, il faudra être sélectif, seul un nombre limité de personnes seront jugées. Le Rwanda a décidé non, tout le monde doit être tenu pour responsable, y compris celui qui a simplement volé une vache pour profiter du crime, et du coup a fait juger plus d'un million de personnes, ce qui est tout à fait unique dans l'histoire. Alors, de là à dire que c'est exemplaire, non, c'est très compliqué. Il y a eu des procès tout à fait corrects, des choses qui étaient de pur règlement de compte. Mais c'est un exemple unique au monde de justice de masse. Oui.
Merci beaucoup Thierry Cruvelier. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du site justiceinfo.net et auteur de ce livre, Le Tribunal des Vaincus, qui a été publié en 2006, je crois, par Calman Lévy. On le trouve toujours ?
Oui, j'espère.
Bon, maintenant que les librairies ont rouvert, merci beaucoup, à bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Les Carnets du Monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Il est philosophe, autiste, Asperger et fou de voyage, même s'il est sagement confiné, comme tout le monde. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Votre réflexion du jour démarre avec un mot qui nous habite tous, hein, il faut bien être honnête, depuis quelques semaines, l'incertitude.
Oui, Sophie, qui ne voudrait pas connaître l'avenir en ces temps d'épidémie? La question est devenue anxiogène. Avant, on savait plus ou moins ce qui allait suivre, vacances ou autres. Maintenant, nous lisons compulsivement l'actualité pour tenter de deviner la suite.
Bon, en tout cas, pour une fois, on est tous à la même enseigne face au virus dans le monde.
Ah, pas si vite, Sophie. Dans d'autres pays, il existe des outils spécifiques pour prédire l'avenir. Je pense à l'immense ville du Caire, hein, cité des mystères pendant des siècles. Le lieu le plus important n'y était pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, par exemple le siège du pouvoir politique. Non, c'était le Nilomètre, le Mikryas en arabe, ou plutôt les Nilomètres, car il y en avait beaucoup, un peu partout à travers le pays et remontant à l'époque pharaonique.
C'est quoi un Nilomètre ? Joseph.
C'est très simple. En été, le Nil entrait en crue et il déposait des sédiments très fertiles pour l'agriculture. Et donc, le Nilomètre permettait de connaître l'importance de la crue et donc si une famine venait ou pas. Ouais. Alors, de nos jours, avec la construction des grands barrages sur le Nil, tout cela n'est plus d'actualité. Mais dès mes premiers jours de séjour au Caire, où j'habitais pour mes cours d'arabe, j'étais très curieux de voir ce mythique Mikryas. Alors, malheureusement, mon sens de l'orientation est désespérément mauvais et donc je me perdais systématiquement entre les habitations.
Et alors vous demandiez votre chemin, je parie.
Oui, mais c'était inutile. Il y a eu des dialogues surréalistes du type « Oh, professeur, maître des ingénieurs », parce que la politesse est très importante en Égypte. On aime à se donner des titres que l'on n'a pas. « Je suis un étranger perdu. Savez-vous où est le Mikryas ?» Réponse « Mais le Nilomètre n'est plus en usage depuis la construction du barrage. Demande plutôt au ministère de l'Agriculture quelles sont les prévisions. » Et moi qui essaye d'expliquer que non, je n'avais pas peur pour mon exploitation agricole, etc. Malentendu à répétition, hein, quand on veut connaître l'avenir, il faut d'abord s'entendre sur ce que exactement on souhaite savoir.
Bon, alors à part le Nilomètre, est-ce que vous avez d'autres outils à nous proposer pour lire l'avenir, justement ?
Ou plutôt des gens, il faut rencontrer les devins. Dans certains lieux, c'est facile, hein. Parfois ils sont regroupés dans des lieux bien identifiés. Je pense au fameux marché au fétiche de Lomé, hein, au Togo, qui est un peu la première étape indispensable quand on arrive là-bas. Ou tout simplement au Yémen. On m'avait expliqué que ces 10 heures de bonne aventure étaient les gens les plus riches du pays. Facile donc de les trouver, mais je n'ai pas osé les voir. Pour moi, en autiste, hein, le plus confortable, c'est quand ils viennent à vous.
Mais ça arrive, ça ?
Oui, par exemple à Yakoutsk, cette ville au centre de la Sibérie, j'y étais venu pour faire des études à l'université. Ouais. Dès le premier jour, à peine les formalités d'inscription achevées, je me suis retrouvé dans une salle avec une chamane locale, en vêtements blancs, avec une queue de cheval, je veux dire queue de cheval réelle, en crin de cheval, pas de la coiffure. Et après un long rituel et des chants, elle m'a prédit mon avenir universitaire. Mais malheureusement, elle l'a fait en langue yakoute, personne ne m'a traduit en russe. Donc, peine perdue. Je ne savais pas quoi m'en tenir par rapport à la suite de mes études. Donc, encore raté, j'ai dû réviser mes partiels, craignant le pire, comme tout le monde, je crois. Mais je vous me demanderais sans doute si tout ça, c'est fiable.
Ben, j'avoue, on se demande un peu tous, oui.
C'est la question fondamentale. Ce matin, je lisais un journal émirati et il y avait une interview d'un éminent astronome de Dubaï. Et lui, il dit que si le Covid a bien prouvé une chose, c'est que les astrologues sont dans l'erreur. Personne n'avait prévu début 2020 sous quel signe allait être l'année. Hein. Bref, Sophie, la prudence est de mise. Hein. Comme le disait Al-Mutanabbi, qui est probablement l'un des plus grands poètes de langue arabe, « Idara aita nuyub alaif bari » Si tu vois les canines du lion, ne crois pas qu'il te sourit.
C'est très joli. Bon, mais c'est pas avec ça qu'on va connaître l'avenir, Joseph. On comptait sur vous, mais sur ce coup-là, vous nous avez pas beaucoup aidé. Ok, merci quand même. À dimanche prochain.
À tout bientôt.
Les carnets du monde, merci de nous avoir accompagnés. Je vous rappelle le courriel sur lequel vous pouvez nous contacter, par exemple pour nous raconter votre expérience de l'épidémie si vous vivez à l'étranger. Voilà l'adresse toute simple, lescarnetsdumonde@europe1.fr. Un grand merci à Marc Fréjean, le réalisateur de l'émission, à Florence Gimalac qui m'aide à la préparer. On vous donne rendez-vous dimanche prochain dès 13h pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.